Pascale Cossard est une chercheuse française spécialisée en microbiologie cellulaire à l'Institut Pasteur. Elle dirige la deuxième section de l'Académie des sciences qui couvre la chimie, la biologie et la médecine, auteur du livre « La nouvelle microbiologie » paru aux éditions Odile Jacob. Bonjour Pascale Cossard.
Bonjour.
Qu'est-ce que la microbiologie, rapidement? Parce que c'est un monde assez, très vaste.
La microbiologie, c'est le monde des microbes, c'est-à-dire les choses qui sont toutes petites, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, et qu'on voit avec un microscope. Donc ça recouvre les bactéries, les virus, les petits parasites. Et ma spécialité, ce sont les bactéries, c'est-à-dire des êtres qui sont vivants et qui peuvent vivre tout seuls.
La Listeria, entre autres. Vous travaillez sur ce projet depuis 30 ans.
Oui, je travaille sur Listeria, qui est une bactérie qui donne des infections alimentaires, qui a la propriété de traverser la barrière intestinale, d'ennuyer les femmes enceintes et qui provoque des avortements et qui peut aussi provoquer des méningites. Mais mon livre ne couvre pas la listériose. Il couvre toute la bactériologie essentiellement, c'est-à-dire tout ce qui est nouveau depuis 20 ans dans le domaine des bactéries et qui est absolument fascinant.
Et dans ce livre, vous démontrez que les bactéries sont plus souvent bénéfiques que pathogènes. Pouvez-vous nous en dire plus?
Oui, je ne démontre rien du tout. Je fais simplement part à ceux qui vont avoir la gentillesse ou en tout cas la curiosité de lire mon livre, de leur dire qu'effectivement, on vit avec des bactéries tous les jours. Que vous soyez illé, que vous soyez parisien, que vous veniez de n'importe où, notre vie, c'est une vie avec les bactéries. Alors, elles sont sur nous. Elles sont dans nous, elles sont sur notre peau, dans nos cheveux, dans notre cavité oro-buccale. Mais elles sont aussi sur la racine des plantes, elles sont à l'intérieur des insectes, elles sont dans l'environnement, elles sont partout.
Et les microbiotes, qu'est-ce que c'est?
Alors, on appelle microbiote, c'est un nouveau mot pour qualifier une flore. Avant, on disait la flore intestinale, maintenant on dit le microbiote intestinal. Mais je voudrais vraiment dire clairement que microbiote, c'est un terme général. Et donc, il y a un microbiote intestinal, mais il y a aussi un microbiote de la peau. Il y a un microbiote vaginal, il y a un microbiote sur les racines des plantes, sur les feuilles, partout.
Et le microbiote, ça correspond à quoi?
Le microbiote, ça correspond à l'assemblée de milliards de bactéries qui vivent ensemble. Alors, il y en a qui sont méchantes, c'est-à-dire elles combattent les autres, elles ont envie de proliférer mieux que les autres. Elles vivent comme dans une société. D'ailleurs, on appelle ça la sociomicrobiologie parce qu'elles vivent ensemble. Et il y en a qui se parlent entre elles, qui s'envoient des signaux, qui leur disent « Toi, tu es mon ami, toi, tu es ma sœur, tu es ma cousine. »
C'est un petit peu comme un monde humain, en gros.
Ah, c'est carrément une société. C'est la société des microbes. Et donc, il y a une vie. Ça n'est pas constante. Par moments, il y en a qui vont mieux que d'autres. Il y en a qui vont moins bien. Et elles sont sujettes à différents facteurs, genre l'alimentation, quand on parle du microbiote intestinal, le froid, quand on parle de la peau, on parle de l'acidité. Quand on est dans la terre, les bactéries des racines des plantes, elles sont sujettes à la composition du sol, etc.
Et ces bactéries, il y en a de bonnes pour les humains et il y en a aussi de bonnes pour les plantes.
Exactement. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que finalement, l'intestin des plantes, c'est leur racine. Elles piochent dans la terre des bactéries du sol et ces bactéries vont établir une sorte de symbiose avec les plantes. Elles vont leur donner des micro-éléments, mais elles vont aussi se nourrir sur les racines. Il y a tout un partenariat qui s'établit. On appelle ça une symbiose.
Mais par contre, il y a les bactéries mauvaises pour l'homme et pour les plantes, non?
Exactement. En général, les bactéries mauvaises pour l'homme ne sont pas forcément mauvaises pour les plantes. Les bactéries qui sont communes aux hommes le sont aussi avec les animaux. La similarité, c'est qu'il y a beaucoup de bactéries qui sont mauvaises pour les plantes qui rentrent par les racines. Il y a beaucoup de bactéries qui sont mauvaises pour les hommes qui rentrent par la voie digestive.
Et comment combattre ces bactéries mauvaises pour les hommes?
Alors, vous savez très bien que pour combattre les bactéries mauvaises pour les hommes, depuis la période après-guerre, après la guerre 40, on a utilisé les antibiotiques.
Et vous êtes un petit peu contre ces antibiotiques?
Pas du tout.
Non.
Je suis pas du tout contre. Ce que je dis, c'est qu'on est arrivé à une période ou les antibiotiques ne sont pas toujours aussi efficaces qu'ils l'étaient il y a plusieurs années. Et ça, parce qu'il y a eu des abus. Et
peut-être que les bactéries sont plus puissantes, non, aussi ?
Les bactéries ne sont pas plus puissantes. Elles ont eu...
ont réussi à muter, non ? On peut dire ça comme ça ou pas du tout ?
Elles ont réussi à muter soit spontanément, soit par acquisition de fragments de bactéries, de fragments d'ADN de bactéries qu'elles ont réussi à attraper et qui leur ont donné la possibilité de résister aux antibiotiques. Alors, comment elles résistent ? Eh bien, elles résistent par différentes façons, soit parce qu'elles ont une protéine sur leur surface qui modifie l'antibiotique quand il arrive, et du coup, l'antibiotique n'a pas d'effet. Ou alors, elles ont des sortes de pompes qui font que, sitôt que l'antibiotique arrive, les bactéries crachent l'antibiotique et l'antibiotique n'a pas d'effet.
Donc, il faudrait, faudrait prendre plusieurs antibiotiques, non ?
Soit on prend plusieurs antibiotiques, c'est ce qui se passe par exemple quand vous avez la tuberculose, parce qu'on se dit que plusieurs antibiotiques vont taper sur plusieurs endroits de la bactérie et ça va faire que les bactéries vont finalement succomber, mais où souvent il faut prendre un autre antibiotique et donc on a une panoplie d'antibiotiques à notre disposition, mais on a des bactéries qui deviennent multirésistantes, c'est-à-dire qu'elles sont résistantes à l'antibiotique X, Y, Z, etc.
Mais peut-on vraiment se passer d'antibiotiques pour combattre ces bactéries ?
C'est-à-dire qu'on arrive dans certains cas très précis à des impasses thérapeutiques par antibiothérapie, mais c'est encore rare. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a une période vraiment charnière où ce qu'on a qui marche bien sur certaines bactéries, il faut surtout se les garder en dernier recours. Et il faut aussi, surtout, ne pas abuser des antibiotiques qu'on a à notre disposition.
Par exemple, pour un petit rhume, ça ne sert à rien de prendre un antibiotique.
Pour un petit rhume, normalement, ça ne sert à rien. Il vaut mieux faire en sorte que le système immunitaire réagisse contre ce petit rhume, comme vous dites.
CRISPR-Cas9.
La grande révolution à
l'heure
actuelle.
Qu'est-ce que c'est ?
Voilà.
Car vous en parlez dans votre livre.
Alors, la grande révolution CRISPR-Cas9. C'est une révolution qui permet aux généticiens, qui permet aux médecins qui s'intéressent à, disons, essayer de comprendre la fonction des gènes, qui va leur permettre de modifier les génomes. Alors, d'où ça vient ? Ça vient du fait qu'on a découvert, il y a environ 5 ans, que les bactéries...
C'est très récent tout de même, 5 ans.
Tout ça, c'est très récent. Les bactéries, d'une part, et on ne le savait pas avant, sont capables de mémoriser le passage d'un virus. Alors, premièrement, elles mémorisent le passage d'un virus et elles sont capables de réagir au même virus qui va repasser. C'est-à-dire, elles vont dire « non, tu ne rentres pas, non, je suis résistant ». Donc ça, elles ont une mémoire immunitaire, première chose.
C'est plutôt bien pour l'homme.
C'est bien, ça c'est bien, c'est-à-dire, non, pas pour l'homme, c'est bien pour la bactérie, elles vont ne pas être éradiquées par le virus. Mais surtout, on s'est rendu compte que pour mémoriser le passage d'un virus et pour combattre un virus qui revient, ça nécessite une petite machinerie qui est extrêmement sophistiquée et dont on s'est dit on pourrait l'utiliser pour autre chose. Et notamment pour modifier des génomes. Et donc, quand une bactérie voit un nouveau virus qui arrive, elle est capable, en gros, de le couper et de le désintégrer. Et donc, la façon de couper utilise ce qu'on appelle un ciseau moléculaire. Et ce ciseau moléculaire peut être transposé quand on veut, par exemple, analyser des cellules de mammifères. Alors, soit vous l'utilisez en recherche, soit vous l'utilisez carrément pour des applications. Alors, en recherche, c'est pour essayer de comprendre comment les gènes fonctionnent. Mais dans les applications, ça pourrait être, par exemple, de dire, on connaît un gène qui est muté, on va essayer de l'enlever et de le remplacer par un nouveau gène qui n'est pas muté. Et ça, si vous faites ça dans ce qu'on appelle les cellules somatiques, par exemple des cellules de votre peau, etc., ça peut être formidable. Évidemment, ça commence à poser des problèmes si vous faites ça dans des cellules germinales, dans les spermatozoïdes ou dans les ovocytes. Ça pose des problèmes éthiques qui sont l'objet de grandes, grandes discussions à l'heure actuelle.
Et ces grandes discussions à l'heure actuelle, elles en sont ouf ?
Elles en sont à dire qu'il n'est hors de question de faire ce genre de choses dans les cellules germinales. Dans les cellules somatiques, c'est à l'étude. Il y a des gens qui commencent à faire des essais pour essayer de voir s'il n'y a pas de problème. Quels peuvent être les problèmes ? Les problèmes, ça peut être de dire on vise tel gène, mais en même temps, on a un peu abîmé tel autre. Et ça pourrait avoir des conséquences dramatiques. Donc, il ne faut pas guérir quelque chose pour produire une autre maladie.
Et dans les cellules germinales, normalement, ça ne sera pas mis en place
pour le
prochainement,
moment,
non.
Non, pour le moment, il y a un peu embargo, on va dire.
Et à votre avis, ça va être mis en place dans un futur proche ou pas du tout?
À mon avis, on a besoin de s'assurer...
Ça peut être super dangereux, tout de même.
Ça peut être... En fait, c'est pas une histoire de dangereux, c'est une histoire de dire que ça peut avoir des conséquences à long terme et des conséquences néfastes à long terme. Oui, dangereux, comme vous dites. Donc, à l'heure actuelle, on veut s'assurer que quand on veut cibler un gène, on ne cible que celui-là. C'est ça le grand problème. Alors, en fait, quelles sont les recherches qui sont faites à l'heure actuelle? Les recherches qui sont faites à l'heure actuelle, c'est par exemple de se dire, bon, on introduit ce ciseau moléculaire dans une cellule, on sait que la concentration de ce ciseau va faire que on va couper peut-être pas bien si on en met trop. Donc, on essaie d'en mettre très peu ou on essaie de le limiter dans le temps, etc. Bon, pour le moment, vraiment, ce sont des choses qui sont à l'état expérimental. Ceci dit, c'est pas du tout expérimental au niveau des plantes. Et justement, aux États-Unis, ils ont réussi à changer certains arbres qui devenaient, par exemple, susceptibles à telle maladie. On a réussi à les transformer et à avoir des arbres qui sont devenus résistants.
Il y a déjà des tests sur les animaux?
Des tests de quoi?
Par rapport au CRISPR-Cas9?
Ah bah sur les animaux, on sait déjà qu'on peut changer des tas de gènes et ça c'est clair qu'on a on a déjà la preuve que ça marche. Et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, c'est parce que ça marche, mais ça marche aussi bien chez les levures, chez les poissons, chez les souris, chez les plantes, vraiment dans beaucoup d'organismes.
C'est pour ça qu'il y a une histoire de calamar dans votre livre, non?
Ah non, l'histoire du calamar, ça n'a rien du tout à voir avec ça.
Expliquez-nous.
Alors, l'histoire du calamar qui est assez amusante, c'est qu'en fait, on sait que les bactéries sont capables d'agir en groupe et elles agissent en groupe de différentes façons. Alors, une bactérie qui est pathogène, elle peut dire « je ne vais pas produire mes toxines si je suis toute seule » parce que si je produis une toxine, de toute façon, le système immunitaire va m'éliminer. Mais si nous sommes un grand groupe de bactéries qui produisent des toxines, le système immunitaire ne pourra pas nous éliminer. Donc l'histoire du calamar, ce n'est pas pour produire des toxines, c'est un calamar qui produit de la lumière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le calamar est un animal qui vit dans le sable et qui la nuit sort de son sable pour aller pêcher des crevettes. Donc, quand il pêche, il est éclairé par la lune et la lune produit une ombre sur le sable. Ce qui fait que cette ombre est une sorte de repère pour les gens qui aiment les calamars ou pour les animaux qui aiment les calamars. Donc, si le calamar produit une ombre, il va être mangé. S'il ne produit pas d'ombre, il n'est pas mangé. Et en fait, c'est ce qu'il fait. Il ne produit pas d'ombre parce qu'il a une sorte de poche qui abrite une bactérie qui s'appelle Vibrio fischeri, qui produit de la lumière, mais qui n'en produit que s'il est en grande quantité. Donc, s'il y a beaucoup de vibrio, elles vont produire une sorte de lumière qui vont, en fait, éteindre l'ombre portée par la lune. Et donc, le calamar, toute la nuit, chasse les crevettes et il a cette espèce de petit phare qui fait qu'il n'y a pas d'ombre portée. À la fin de la nuit, le calamar crache toutes ces bactéries qui se dispersent dans l'océan et il repart dans le sable. Et pendant toute la journée, en fait, les bactéries se nourrissent dans la petite poche du calamar et se remultiplient. Et donc, en fait, là, on assiste à une sorte de symbiose entre le calamar et le vibrio. Le vibrio lui fournit la lumière pendant la nuit et pendant le jour, le calamar lui fournit à manger. Et le vibrio mange dans sa petite poche de calamar, on peut dire. Donc ça, c'est un modèle d'étude de la symbiose animal, bactérie, qui est particulièrement frappant et qui a permis de montrer aussi, et ça je trouve que c'est vraiment important, c'est que les bactéries peuvent éventuellement affecter ce qu'on appelle le rythme circadien. Le rythme circadien, ça veut dire...
Expliquez-nous. Parce que...
Ça veut dire que vous comme moi, toutes les 24 heures, nous faisons la même chose. Vous vous levez le matin, vous prenez votre petit déjeuner, mais vous avez aussi votre corps qui se réveille, qui met en place tout un nombre de choses que vous n'imaginez pas, même pas moi non plus. Donc c'est ça ce qu'on appelle le rythme circadien. Circa, ça veut dire autour de l'horloge pendant 24 heures.
L'horloge biologique.
Voilà.
Et si cette horloge biologique est décalée... il peut avoir des soucis.
Voilà. Et en fait, le décalage horaire, c'est ça. C'est-à-dire que votre rythme circadien est décalé, vous êtes un peu perturbé. Et on sait d'ailleurs que cette perturbation peut affecter, par exemple, tout votre microbiote intestinal. Mmh. Et donc, il y a des études qui sont faites pour savoir un tout petit peu pourquoi les gens qui travaillent, par exemple, la nuit, ont un rythme circadien qui est très, très, très affecté. Et souvent, les gens qui travaillent la nuit, qui ne travaillent pas comme les autres du matin au soir, se plaignent de maux d'intestin, de maux d'estomac, parce que justement...
Par exemple, les infirmières, non ?
Par exemple, les infirmières, les chauffeurs de taxi, les travailleurs de nuit, etc.
On vous retrouve à l'Escadrille ce jour, vendredi 5 août, à partir de 11h30.
Voilà, et je vais essayer de convaincre tout le monde que le monde des bactéries est un monde qui est en pleine évolution. On découvre des tas de choses à l'heure actuelle. Et j'aimerais faire part de mon enthousiasme avec beaucoup de gens.
Et vous êtes enthousiaste, ça s'entend. Merci Pascal Cossard, à très bientôt.
Merci de m'avoir reçu.
À bientôt.
Au revoir.